Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, la junte au pouvoir dit que le pays est sous la menace d'un embargo total de la CEDEAO. Ce sera dans un instant. Et concernant la présidentielle en Guinée, l'opposition anti-Condé appelle à des manifestations fin septembre. Nous y reviendrons également. De son côté, en Côte d'Ivoire, la plateforme EDS, qui avait déposé la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre, appelle à des manifestations après le rejet du dossier de M. Gbagbo et la validation de la candidature en troisième mandat du président Alassane Ouattara. Mardi, les autorités ont prolongé jusqu'au 30 septembre l'interdiction de manifester prise au mois d'août. Yacouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre de la transition au Burkina Faso, qui vit en exil au Canada, sera investi le 25 septembre candidat à la présidentielle du 22 novembre, a annoncé mercredi son parti, le MSP. Zida, alors lieutenant-colonel, s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. Il reste flou sur son ambition et risque d'être traduit en justice s'il rentre au Burkina. En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé mercredi dans une brève allocution télévisée être prêt à quitter ses fonctions avant fin octobre pour céder la place à un nouvel exécutif issu de pourparlers interlibyens visant à parvenir à une issue politique à la crise que traverse le pays. En République démocratique du Congo, des civils affirmant représenter quelques 70 groupes armés du Sud Kivu se sont engagés à cesser les hostilités dans cette province de l'Est à l'issue d'une rencontre de 3 jours à Muresa, près du chef-lieu de Bukavu. En présence du ministre délégué à la Défense, Sylvain Mutombo, la rencontre a été co-organisée par l'ONG américaine de résolution des conflits Search for Common Ground. Le Ghana a vu son économie, affectée par la pandémie de COVID-19, se contracter de 3,2% sur un an au deuxième trimestre, une première depuis 1983, a annoncé mercredi le Service national des statistiques. Les frontières de l'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, vont rouvrir le 1er octobre avec des restrictions pour certains pays dont les taux d'infection au coronavirus demeurent élevés, a annoncé mercredi soir le président Cyril Ramaphosa. Ici aux États-Unis, la récession en 2020 devrait être moins brutale que prévu, avec un recul de 3,7% du PIB en 2020. Mais le rebond sera moins fort au cours des années suivantes, a estimé la Banque centrale américaine. La Fed a par ailleurs laissé inchangés ses taux lors de sa réunion monétaire. Le président Donald Trump a affirmé mercredi que les États-Unis disposeraient à partir d'octobre d'un vaccin contre le COVID-19 largement distribué dans la population, contredisant le directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies. Robert Redfield avait lui déclaré qu'un futur vaccin pourrait être administré au grand public d'ici au milieu de l'année 2021 ou un peu plus tôt. Par ailleurs, et selon un rapport publié mercredi par l'ONG Oxfam, un groupe de pays riches représentant 13% de la population mondiale a préacheté la moitié des futures doses de vaccins contre le COVID-19. Rues submergées et coupures de courant, l'Alabama et le nord-ouest de la Floride, ici aux États-Unis, étaient balayés mercredi par les pluies de l'ouragan Sally, qui provoque des inondations catastrophiques qui ont provoqué la coupure du courant pour plus de 550 000 foyers. On déplorerait la mort d'une personne dans l'Alabama. suite de nos informations, au Mali, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a dit mercredi avoir engagé le processus de nomination des futurs responsables de la transition en gardant ouvertes toutes ses options quant à la désignation de personnalités civiles ou militaires. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée mercredi à Kati par le colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP. Il tenait cette conférence de presse suite à la participation des militaires au mini-sommet de la CDAO au Ghana sur la crise malienne. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Après le sommet d'Accra sur la crise malienne, la CEDEAO a demandé aux militaires maliens au pouvoir à Bamako de désigner un président et un premier ministre civil pour diriger la transition pendant 18 mois. Face à la presse, le porte-parole des militaires au pouvoir dit qu'un collège est déjà en place. Colonel-major Ismaël Ouagé.
Maintenant, c'est les résultats des concertations qui nous ont permis de se prononcer. Sachant que dans ça, il y a un collège qui doit mettre en place le président de la transition, qui va être un civil ou un militaire. Et le vice-président dans les mêmes conditions. Toutefois, nous avons dit que leur exigence est bien comprise. On va intégrer et venir expliquer aux autres. Et en fonction de ça, ce qui va être pris comme décision dans ça, ça va leur être partagé.
À Accra, les militaires ont demandé la levée ou l'allègement des sanctions contre le Mali.
Ils ont dit clairement que la levée des sanctions est liée à ce que nous acceptons leur proposition. Et que si on veut que les sanctions soient levées, il suffit seulement qu'on dise qu'on est d'accord avec leur proposition. Ils vont faire un communiqué dans ce sens et les sanctions vont être levées. Donc, tant qu'on n'accepte pas leurs conditions, les sanctions ne seront pas levées. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort.
Actuellement, le CNSP s'est dit conscient de la date de l'ultimatum de la CEDEAO. C'est pourquoi ils se sont mis à la tâche afin de mettre en place la structure de la transition. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'opposition guinéenne a appelé mercredi à des manifestations à la fin du mois contre un éventuel troisième mandat du président sortant Alpha Condé. Maintenant, le FNDC, fer de lance de la contestation, demande le départ du président guinéen. Les détails avec Nani Talani.
Notre mouvement citoyen appelle les populations de Conakry et ses alentours à une série de marches pacifiques qui débutent le mardi 29 septembre pour exiger le départ de M. Alpha Condé, a déclaré Abdourahmane Sano, dirigeant du Front national de défense de la Constitution, qui mobilise depuis des mois contre un troisième mandat pour le président guinéen. Il s'agit de faire barrage au coup d'État de M. Alpha Condé, dont la seule ambition est de rester au pouvoir à vie, a précisé M. Sano. Ces manifestations risquent d'être déclarées illégales, puisque quelques heures auparavant, le chef de l'État a prolongé d'un mois l'état d'urgence sanitaire à cause du Covid-19. Il lui permet de maintenir des mesures exceptionnelles, dont l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. Les défenseurs des droits humains et l'opposition accusent les autorités de se servir de la pandémie pour réprimer la contestation. Le FNDC a fait descendre des milliers de Guinéens dans la rue depuis un an pour faire barrage à M. Condé. La contestation a donné lieu à des heurts et des dizaines de civils ont été tués.
L'état d'urgence sanitaire est prorogé de 6 mois au Togo. Une loi a été votée dans ce sens par l'Assemblée nationale et le Parlement a donné par la même occasion le quitus à l'exécutif de gouverner par ordonnance. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
En vigueur depuis le 2 avril, l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'en mars 2021. L'Assemblée nationale du Togo a autorisé le gouvernement par le vote de 2 lois dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Le premier texte, adopté à l'unanimité, proroge l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 6 mois. Le second habilite le gouvernement à décider par ordonnance. Dans son intervention devant les députés, le premier ministre Kwame Selom Klassou a voulu rassurer les Togolais que le gouvernement utilisera ces 2 outils juridiques dans le seul but d'apporter une réponse urgente, coordonnée et d'envergure à la pandémie de Covid-19. Il n'a pas manqué de rappeler combien le respect des gestes barrières est important dans la lutte contre le coronavirus. À la date d'hier, le pays a enregistré 1608 cas et 40 décès. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Minute Éco Nani Talay.
En Afrique du Sud, 5 diamants bleus à la transparence et au brillant exquis et dont le poids varie entre 9,61 et 25,75 carats ont été trouvés à l'est de Pretoria dans la mine de Cullinan appartenant à Petra Diamonds. Cette mine est la principale source de diamants au monde. La dernière découverte de cette pierre si rare dans la même mine remonte à septembre 2019 et a été vendue à 12,6 millions d'euros à un acheteur anonyme. En Algérie, le secteur viticole connaît sa pire année à cause du coronavirus et de la baisse des récoltes dues à la canicule. La Société agricole de production de la vigne et du vin accuse le maintien, sans justification officielle, de l'interdiction de vente d'alcool en boutique spécialisée, alors qu'une grande partie des activités commerciales et industrielles a progressivement repris après 5 mois de confinement. Il faut que le gouvernement débloque la distribution d'alcool pour relancer notre activité économique, plaide la société. Pour terminer, la Banque africaine de développement a approuvé ce mercredi une subvention de 27,33 millions de dollars pour soutenir l'initiative de riposte au COVID-19 de l'Union africaine. Avec ce confinement, nous réaffirmons notre ferme engagement en faveur d'une réponse africaine coordonnée face à la pandémie, a affirmé le président de la BAD, Akinwumi Adesina.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Stade malien de Bamako est sacré champion de la saison 2019-2020 de football. C'était à l'issue des matchs du Caridas qui ont pris fin mardi dernier. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous donne plus de détails.
C'est la 5e fois consécutive que le Stade malien de Bamako gagne le titre de champion. Le trophée de la saison qui s'achève lui a été officiellement remis par le président du comité exécutif de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, communément appelé Bavieux. Ce n'est pas tout. Les Blancs de Bamako, comme on aime à les appeler, gagnent en plus 10 millions de francs CFA. Le titre de champion leur offre également le ticket pour représenter le Mali à la Ligue africaine des clubs champions. Le sacre de la saison 2019-2020 complète à 19 les titres du Stade malien de Bamako. Et les Blancs de Bamako deviennent du coup le club le plus titré du championnat national Ligue 1 de football au Mali. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Deux joueurs du Racing Club d'Abidjan, Thomas Trazier, milieu de terrain de 21 ans, et Armel Zouiri, latéral droit de 19 ans, ont signé un contrat de 3 ans avec le club français de l'OGC Nice. Nice et le club champion du Côte d'Ivoire, fondé par l'ancien joueur Souleymane Cissé, se sont engagés dans un partenariat il y a 2 ans. Patrice Carteron quitte le banc des Zamalek d'Égypte à 1 mois de sa demi-finale de Ligue des Champions. Le technicien français a signifié son départ au club alors qu'il est lié aux Zamalek jusqu'en juin 2021. Le coach serait lui-même prêt à verser des indemnités de départ et la presse égyptienne parle de 250 000 dollars pour se libérer de son contrat. Les Zamalek affrontent le mois prochain le Raja Casablanca en demi-finale de la Ligue des Champions CAF. En France, la Ligue de football professionnelle a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur les propos racistes qu'aurait tenus le défenseur de Marseille, Alvaro González, envers l'attaquant star du Paris Saint-Germain, Neymar, qui a écopé d'une suspension de 2 matchs fermes, plus 1 avec sursis. Par ailleurs, le Parisien Angel Di Maria a été convoqué pour la prochaine réunion de la commission de discipline le 23 septembre pour le crachat qu'il aurait adressé en direction d'Alvaro durant ce match houleux qui s'est soldé dimanche par la première victoire en 9 ans de l'OM sur son rival 1-0. 5 cartons rouges ont été adressés par l'arbitre pour un début de bagarre, dont un pour Neymar.
Vendredi dans À votre avis, votre émission débat, 18h05, temps universel sur VOA Afrique, nous allons parler du syndrome du troisième mandat. En Côte d'Ivoire et en Guinée, les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé ont confirmé leur candidature pour les prochaines présidentielles. S'agit-il du mandat de trop ou de mandat justifié selon vous? Ce sera le thème d'À votre avis du vendredi 17 septembre. Pour y participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons les débats sur VOA Afrique, c'est tous les jours dans À votre avis à 18h05, temps universel.
votre compagnie Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le verdict est tombé pour l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015. Le Sénégalais Lamine Diack a été condamné à Paris à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, plus une amende de 500 000 euros pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Yacouba Ouédraogo.
Le Sénégalais de 87 ans a été reconnu coupable de corruption et d'abus de confiance. En plus de sa condamnation à 4 ans de prison, dont 2 fermes, Lamine Diack a écopé de 500 000 euros d'amende. La justice lui reproche d'avoir permis de retarder à partir de fin 2011 des procédures disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage en échange de financement de Moscou. Lamine Diack est ressorti libre de la salle d'audience. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'ils font appel. Maître Simon Ndiaye, avocat de Lamine Diack.
On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diack, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel.
Parmi les 6 prévenus, la peine la plus lourde, 5 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende, a été prononcée contre Papa Massata. Ce dernier, fils de Lamine Diack, était à l'époque des faits le conseiller marketing de l'I2AF. Il est resté à Dakar et a refusé de comparaître au procès. Lundi dernier, lors d'une conférence de presse dans la capitale sénégalaise, Papa Massata a dénoncé la procédure du procès. Papa Massata Diack, ancien responsable du marketing à l'I2AF.
L'enquêteur ne m'a jamais entendu. Ils disent qu'il a enquêté. Il n'a jamais entendu Lamine Diack. Il n'a jamais entendu Abid Cissé. Et il dénonce au niveau du parti financier. Alors que son enquête n'a pas été exhaustive. L'enquête, il ne nous a pas rencontrés.
Le tribunal a maintenu le mandat d'arrêt à l'encontre de Papa Massata Diack. Les 4 autres ont tous été condamnés à différentes peines. L'ancien chef de l'antidopage Gabriel Doulé, l'avocat Habib Cissé, qui conseillait Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération russe d'athlétisme Valentin Balachnikov et l'ancien entraîneur Alexei Melnikov. Tous, selon la justice, ont contribué à retarder des procédures disciplinaires à l'encontre d'athlètes russes soupçonnés de dopage. En retour, l'I2AF a obtenu de Moscou le renouvellement de ses contrats de sponsoring avec la Banque d'État russe VTB et la télévision publique RTE.
Au Sénégal, les réactions sont partagées entre de la compassion en raison de l'âge avancé de Lamine Diack, 87 ans, et des doutes soulevés par son fils sur la transparence de l'enquête. Papa Massata Diack, son fils, jugé par contumace, écope de 5 ans de prison ferme et d'une amende d'un million d'euros. Micro-trottoir de notre correspondant à Dakar, Sédina Abagui.
Mohamed Moulavi, personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous régis par des textes, que ce soit au niveau des pays, de la FIFA, de toutes les instances internationales. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ça a été vérifié par qui? Est-ce qu'ils ont des témoignages, ils ont des notes, ils ont voilà, la véracité de ce qu'ils disent, en quelque sorte. Ils ne peuvent pas le prouver. Ils ne peuvent pas, c'est des accusations fausses. À mon humble avis, c'est des accusations fausses qu'ils ont portées sur sa personne.
Les principaux condamnés ne sont pas du tout français, ou bien en fait, ce ne sont pas en fait, des gens pro-occidentaux. Je pense qu'il y a un conflit entre l'Occident et le tiers-monde. Pas seulement le tiers-monde, mais aussi avec les Russes. Entre l'Occident et les Russes, bon, les Africains sont, pour moi, en quelque sorte des victimes de ce conflit. D'après ce que j'ai entendu, il n'a pas réfuté carrément les faits, mais il s'est expliqué, puisque l'argent ne lui a pas été destiné directement. C'était pour financer, je pense, d'autres activités. L'Afrique en particulier, on a entendu plusieurs scandales concernant le sport, la gestion du sport. Donc, cela aussi peut impacter cela.
Concernant le dossier de Lamine Diack, c'est un dossier très complexe. Même nous, les Sénégalais, on a du mal à cerner ce cas. Mais nous jugeons que c'est un petit peu sévère pour un pour une personne vraiment âgée, environ dans les 90 ans, je crois. Personnellement, je ne maîtrise pas forcément le dossier, mais j'ai entendu les chefs d'accusation aujourd'hui et je pense que ça a été très sévère. Nous, en tant que Sénégalais, ça nous fait vraiment mal parce que c'est une icône de l'athlétisme. Il a fait ses preuves pendant des années et des années. Alors, c'est quelque chose qui dépend sur l'identité et la visibilité du Sénégal dans le monde.
À Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, les poissons frais et autres aliments, notamment les légumes et crudités, sont souvent étalés à même le sol pour la vente, sans aucune mesure d'hygiène appropriée dans la plupart des marchés de N'Djamena, où plusieurs quartiers sont inondés actuellement. La consommation de ces produits est source de maladies, soulignent les spécialistes. Reportage de notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kotmadjingar.
Dans la ville de N'Djamena, les marchés aux poissons et autres crudités se créent de façon anarchique aux abords des rues. La gestion échappe très souvent aux autorités communales et le non-respect des règles élémentaires d'hygiène se pose avec acuité. Les poissons frais ou fumés, les légumes, les aliments accessibles aux citoyens lambda et l'état d'immondice ainsi que les eaux stagnantes s'entremêlent. Les vendeurs sont conscients du danger mais évoquent l'insuffisance de places à l'intérieur des marchés pour justifier l'occupation des espaces publics.
Ici au marché Taradona, par exemple, nous, vendeuses de poissons frais et fumés, nous sommes très nombreuses. Et les tables construites pour nous à l'intérieur du marché sont insuffisantes. C'est pourquoi nous étalons les poissons frais sur le plastique dehors ici pour vendre dans cette condition peu hygiénique. Nous-mêmes, on n'arrive pas à respirer, mais on n'a pas le choix.
Nous, les orphelins, nous vivons à travers les marchés. Regardez, tout est sale. C'est nous qui avons nettoyé et acheté quelques voyages de terre et des briques pour mettre ici. Mais cela n'a pas régler le problème. Alors, quel est le rôle de la mairie dans tout ça?
Une cliente rencontrée dans l'un des marchés de la commune du 7e arrondissement déplore elle aussi les conditions dans lesquelles se vendent ces produits qui sont le principal menu des citoyens ordinaires.
Ce sont ces aliments-là que nous consommons. Alors, comme ce n'est pas à consommer non cuit, il faut prendre le temps de bien cuire pour que ces poissons-là puissent être débarrassés des microbes. Sinon, on souhaiterait que les conditions puissent être améliorées parce que notre santé également exposée.
Le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salih Ibrahim, reconnaît qu'il y a un manque de volonté concernant l'entretien des marchés chez les commerçants et du côté des autorités communales.
Chaque matin, quand un commerçant arrive, il va d'abord nettoyer sa devanture et de prendre tout ce qui est les ordures pour déposer au niveau des bacs à ordures avant de s'installer. Malheureusement, les commerçants, ils déposent encore sur le rue. Pour être la mairie qui va faire, en réalité, déjà ne reste hygiène et assainissement. Des deux côtés, il y a des failles. Au niveau de certains marchés, les rues qu'on a aménagées, c'est devenir un marché. Je demande à mes mamans, mes sœurs, de nous comprendre aussi dans ce sens.
Le délégué sanitaire de la province du Borku, Dr Salih Corey, parle des maladies liées à la consommation de ces produits et conseille l'hygiène corporelle.
La fièvre typhoïde dont tous les Tchadiens souffrent chaque jour. Les dysenteries, surtout salmonelles et aux cigoleuses, ce sont des maladies très dangereuses. Si on a besoin de consultation, là, c'est ça même. Au 4, si on dit que presque 20% des enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans, là. C'est lié à la diarrhée, il faut vraiment l'hygiène corporelle en général et l'hygiène environnementale. Peut-être que les gens n'ont pas de choix, parce qu'il faut vraiment acheter ces produits-là. Et ils sont la source de tous les problèmes, mais en même temps, c'est le seul aliment disponible maintenant. C'est un vrai danger.
Les risques sanitaires sont bien là et le COVID-19 ne vient pas assainir la situation. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les Nigériens protestent contre la hausse des prix de l'électricité et du carburant, en pleine crise économique liée à la pandémie de COVID-19. Les autorités maintiennent que les nouveaux tarifs ont été adoptés dans l'intérêt du pays. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Lionel Gahima.
Les manifestants sont nombreux dans les rues menant à la commission de réglementation de l'électricité à Abuja. Ils réclament l'annulation immédiate de la hausse de prix de l'électricité et du carburant. Le gouvernement a presque doublé le coût de l'électricité ce mois-ci et supprimé la subvention sur le carburant, provoquant une flambée de prix de l'essence. Sidney Ousmane est l'organisateur de cette manif à Abuja.
It is anti-human.
C'est inhumain, antidémocratique, anti-peuple, et cela ne vise qu'à soumettre la population à des épreuves plus dures. Pas en ce moment où nous nous remettons juste de la pandémie. Des emplois ont été perdus, des moyens de subsistance ont disparu, des entreprises sont plombées. Comment allons-nous survivre ?
La plupart des entreprises dépendent de l'énergie électrique ou de l'essence pour fonctionner. À cause de la pandémie, elles sont déjà à l'arrêt ou fonctionnent au ralenti. Amina Aminou, qui dirige une société d'embouteillage d'eau à la périphérie d'Abuja, dit que cette hausse va forcément affecter les coûts de production et sa marge de bénéfice.
All the capital we inject.
Tout le capital que nous injectons ira au diesel et à l'essence. Donc il n'y a pas de profit. Parce que normalement, pour transporter l'eau en bouteille, nous utilisons du diesel et de l'essence. Et nous utilisons aussi de l'essence et du diesel pour alimenter nos générateurs pour la production.
De nombreux Nigérians accusent les autorités d'être insensibles aux difficultés causées par la pandémie de coronavirus. Les autorités affirment de leur côté que la hausse des coûts de l'électricité et la suppression de la subvention carburant vont renforcer le secteur énergétique et assurer des plus longues heures d'alimentation électrique. Ils disent aussi assurer un approvisionnement en carburant sur toute l'année malgré les fluctuations du marché. L'expert en énergie, Odion Omonfoman, soutient la décision du gouvernement, estimant que le Covid-19 a laminé les sources des revenus du pays.
Les prix du pétrole brut, notre principale source de revenus, ont été assez bas. Le gouvernement nigérian a du mal à obtenir des recettes pour équilibrer son budget et ne pas se permettre des subventions sur le carburant. C'est donc un pas dans la bonne direction. À mon avis, c'est un mal nécessaire que nous devons supporter.
Au cours de la dernière décennie, le Nigeria a dépensé 22 milliards de dollars en subventions sur le carburant. Les autorités produisent également de l'électricité à un coût beaucoup plus élevé que celui facturé aux consommateurs. Les experts disent que les fonds de subvention pourraient être utilisés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais les manifestants ici se disent résolus à rester dans la rue jusqu'à obtenir gain de cause.
Abdourahman Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec deux pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique contre le conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester coaché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM, sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedunia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA.